13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission où chaque semaine les journalistes de la rédaction d'Europe 1 vous racontent les coulisses de leurs enquêtes et de leurs reportages. Et pour commencer, direction Douai dans le Nord avec l'enregistrement de l'appel au secours d'Élodie Kulik au cœur du procès de Willy Bardon. Lionel Gougelot a suivi les débats entre témoins et experts autour de cet élément clé de l'accusation. Gros plan ensuite avec Charles Guyard sur le procès de l'affaire Troadec, le quadruple meurtre d'une famille en Loire-Atlantique et un accusé obsédé par un hypothétique magot de lingots d'or. Le coup d'envoi du Tour de France 2021 depuis la Bretagne et en public, nous rejoindrons à Brest Axel May et Marguerite Lefebvre du service des sports. Ils vont vous faire vivre pendant 3 semaines sur l'antenne les temps forts de cette grande boucle. Direction ensuite le Perche avec Pierre Herbulot. Il a rencontré un chef, Guillaume Foucault, militant de la gastronomie durable et de la vache percheronne. Enfin, Diane Chinouda nous fera découvrir 2 expositions coup de cœur. L'hommage à une icône républicaine, Simone Veil à l'Hôtel de Ville à Paris, et celle consacrée au Victor Hugo dessinateur dans sa maison de la Place des Vosges. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer, nous allons revenir sur ce procès que nous avions évoqué déjà longuement la semaine dernière, le procès en appel de Willy Bardon, accusé du meurtre d'Élodie Kulik, une affaire qui remonte à 20 ans et pour laquelle, lors de son premier procès, il a été condamné à 30 ans de prison. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans le Nord, c'est vous qui suivez pour la 2e semaine ce procès, avec une semaine capitale pour l'accusé qui clame son innocence parce que la pièce maîtresse de l'accusation qui pose l'enjeu, d'ailleurs, on y reviendra, des témoignages humains face à des expertises, eh bien c'est un enregistrement et il a été au cœur de l'audience cette semaine. Déjà, c'est quoi cet enregistrement ?
Alors écoutez, c'est une bande-son de 26 secondes qui témoigne en fait des derniers instants de vie d'Élodie Kulik. L'enregistrement de l'appel aux pompiers qu'elle a passé avec son téléphone au moment de son agression en pleine nuit sur une route de campagne alors que sa voiture venait d'être accidentée. 26 secondes de hurlements, de gémissements de terreur parce que à cet instant, Élodie, eh bien, elle est la proie sans défense de ses agresseurs et elle se rend compte qu'ils ne vont lui laisser aucune chance. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend ? On entend bien sûr donc les cris d'Élodie, mais aussi en arrière-plan les voix de 2 hommes, les agresseurs. Mais ce ne sont que des voix justement difficiles, impossibles même de distinguer une parole intelligible. On ne peut que deviner quelques bribes de mots jusqu'à la coupure brutale de la liaison, probablement provoquée par le retrait de la batterie du téléphone.
Et pourquoi cet élément est clé pour l'accusation ?
Eh bien parce que la voix de Willy Bardon a été identifiée, reconnue par des témoins après 11 ans d'enquête. Willy Bardon, il s'était retrouvé dans le collimateur des gendarmes parce qu'il faisait partie de la bande de copains, de virés, de Grégory Viard. Et Grégory Viard, c'est ce jeune homme qui avait été identifié par l'ADN comme l'un des violeurs d'Élodie Kulik, identifié en 2012, alors qu'il était décédé depuis plusieurs années.
Alors du coup, cet enregistrement, même si la présidente, vous nous le disiez la semaine dernière, ne souhaitait pas qu'il soit trop diffusé, a tout de même dû être diffusé plusieurs fois à l'audience.
Bah oui, effectivement, et dans une ambiance pesante que vous pouvez imaginer. Diffusion tantôt par haut-parleur dans la salle, tantôt par casque pour les dépositions des témoins ou des experts. Alors à la première diffusion, Jackie Kulik, le papa d'Élodie, n'a pas supporté. Il a quitté la salle d'audience tout simplement. Quant à Willy Bardon, eh bien, à chaque fois, je m'efforce de bien l'observer pendant la diffusion. Et souvent, il écoute la bande, les yeux mi-clos, comme pour mieux se concentrer. Il esquisse de temps à autre une moue dubitative, parfois quelques haussements de sourcils. Le fait est qu'il donne l'image de quelqu'un qui est observateur d'une scène dont il est étranger. Alors, est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est une façon de paraître ? Il faudrait être dans sa tête pour le savoir.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de l'audience ?
Alors d'abord un témoignage accablant, celui de Cathy. Cathy, c'est l'ancienne compagne de Grégory Viard, l'agresseur identifié, hein, dont je vous le disais. Elle reconnaît formellement la voix de Bardon sur la bande. Et ça, c'est déterminant pour l'accusation. Et l'avocat du papa d'Élodie, Didier Sebaud, ce banc.
Elle a quand même entendu cet enregistrement une vingtaine de fois. Elle a été questionnée, re-questionnée à plusieurs reprises sur cette conviction entendue par le juge d'instruction. Donc voilà, c'est une femme qui sait de quoi elle parle, qui sait l'enjeu de ce qu'elle dit et qui le dit devant la cour, droit dans les yeux, si j'ose dire. C'est Willy Bardon que j'entends dans cette cassette.
Et puis il y a d'autres témoins qui avaient identifié Bardon, mais qui ne sont plus si sûrs et qui se sont rétractés, comme son neveu qui, en confrontation à l'époque de l'enquête, avait supplié Bardon d'avouer et qui dit aujourd'hui qu'il a été finalement influencé par les gendarmes pour désigner la voix sur l'enregistrement. Et puis, il y a eu cette semaine le témoignage de René Bardon, le frère de Willy. Durant l'enquête, il avait maladroitement admis reconnaître des intonations de voix semblables à celles de son frère, tout en étant convaincu de son innocence. Et il a accepté de me livrer son sentiment cette semaine à l'issue d'une des audiences.
Il y a des intonations qui sont ressemblantes. Mais est-ce que des intonations, c'est une voix? Je ne sais pas. C'est à la cour de répondre, ce n'est pas à moi. Moi, je vous dis mon sentiment. Et puis, derrière ça, il y a une victime. Je ne vais pas me mettre à la place de M. Kulik, parce que ce n'est pas possible. Mais moi aussi, on a besoin tous d'une vérité.
C'est une épreuve d'être devant la cour comme ça,
Bien sûr, c'est une épreuve quand vous êtes un citoyen lambda et que vous vous retrouvez devant une cour d'assises où on juge votre frère. Je défie qui que ce soit de venir témoigner et puis d'être serein à un moment. C'est pas de la rigolade, on juge quelqu'un là aujourd'hui hein, pour un nombre d'années et puis il y a une famille qui attend une réponse, qui attend une vérité.
Voilà, et c'est là qu'on comprend tout l'enjeu effectivement de cette semaine capitale puisque avec ces témoignages de proches qui pensent reconnaître, ne plus reconnaître, il y a en face des experts. Qu'est-ce qu'on dit des experts ?
Ah ben, eux, ils se montrent très prudents. Hein. L'enregistrement est de trop mauvaise qualité, selon eux, trop court pour permettre une identification certaine, même de la part de proches. Et c'est là-dessus qu'insiste Stéphane Dacco, l'un des avocats de la Défense.
Quand vous avez des experts qui viennent vous dire « c'est pas possible, cette bande, on peut pas l'utiliser », voilà. Comprenez, ouvrez les yeux, on ne peut pas utiliser cette bande. Et que d'un autre côté, il y a des gens qui disent « Ah ben si, si, moi je le reconnais ». C'est faire peu de cas du fait que le témoignage humain, il est fragile face à l'expertise.
Et il y a même un scientifique cité comme témoin par la Défense qui est même venu dire qu'il ne comprenait pas pourquoi un tel document sonore avait été retenu dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est dire la réserve qu'inspire cet enregistrement auprès des spécialistes, en tout cas en tant que preuve dans un procès pénal.
Alors au premier procès, puisque désormais les verdicts sont motivés, on sait que cela avait emporté pourtant la conviction des jurés, cet enregistrement.
Ah oui, clairement, hein, parce que dans la motivation de son arrêt, le jury avait constaté que la voix de celui qui parle le plus ressemble fortement à celle de Willy Bardon. Celui qui parle le plus, eh bien figurez-vous qu'il a été chronométré sur 2 secondes. 2 secondes seulement, eh bien, cela n'avait pas empêché la cour d'assises d'Amiens de condamner Willy Bardon à 30 ans de réclusion criminelle.
Alors c'est vrai que quand on vous écoute et qu'on se dit que c'est peut-être le seul élément clé de l'accusation, est-ce que c'est vraiment le seul d'ailleurs ?
Eh bien, en fait, c'est le seul élément tangible entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre élément matériel, il n'y a pas de trace ADN dans cette affaire, ni d'empreinte digitale pour mettre en cause Willy Bardon. Alors c'est vrai que pour le reste, il y a un faisceau de présomption, une enquête de personnalité peu reluisante. Bardon, vous savez, c'est le dragueur lourdingue, grande gueule, parfois soupolé, très vulgaire, et qui faisait surtout partie de la bande des 4x4, hein, qui faisait des virées avec Grégory Viard. Enfin, il n'était pas le seul quand même. Hein.
Alors, on voit tout le poids qui va reposer à un moment des délibérations, on imagine, sur les jurés. L'ambiance, justement, par rapport au premier procès
Écoutez, mon sentiment, ça n'est que mon sentiment, hein, mais je me souviens qu'en première instance à Amiens, en décembre 2019, on baignait dans une espèce d'ambiance de présomption de culpabilité vis-à-vis de Willy Bardon. Ici, à Douai, on remet le dossier à plat, l'accusé s'exprime mieux. Reste à savoir si cela peut entrouvrir la porte au doute dans l'esprit du jury.
Merci beaucoup, Lionel Gougelot.
Merci, Fabienne, à bientôt.
Europe 1.
À suivre, un autre procès qui a marqué l'actualité de la semaine, celui de l'affaire Troadec, le quadruple meurtre de toute une famille en Loire-Atlantique il y a 4 ans. Et au cœur des débats, la personnalité d'un accusé obsédé par un hypothétique magot.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Gros plan maintenant sur le procès de l'affaire Troadec, le quadruple meurtre de toute une famille. C'était il y a 4 ans, en Loire-Atlantique, et au cœur des débats cette semaine, la personnalité de l'accusé Hubert Caoussin, obsédé par un hypothétique magot.
Lorsque le 23 février 2017, la disparition d'une famille entière est signalée à Orvault, c'est le branle-bas de combat au commissariat de Nantes, encore marqué par l'énigme du pont de Ligonnès. Cette fois, pas de cadavre enterré dans le pavillon, mais un ADN découvert, celui d'Hubert Caouissin, meurtrier présumé des quatre membres de la famille Troidec, dont il a fait disparaître les corps dans le Finistère. La raison, le père Pascal Troidec aurait subtilisé tout un héritage composé de lingots d'or au détriment de tout le reste de la lignée Troidec, dont Lydie, l'épouse de l'accusé. Une véritable fable selon Cécile de Oliveira, avocate des parties civiles.
La cour d'assises se penchera sur ce qui est une forme d'alibi pour M. Caouissin. Je ne sais pas s'il lui-même croit à l'existence de ce trésor.
Et pourtant, c'est bien ce trésor totalement illusoire qui a plongé l'accusé dans un délire paranoïaque d'après les expertises psychiatriques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, cette obsession n'a pas quitté l'accusé, défendu par Thierry Filion.
4 ans et demi après le drame, il est encore habité par les croyances qui étaient les siennes à l'époque des faits.
Bonjour Charles Guyard.
Bonjour Fabienne.
Correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, c'est vous qui suivez depuis mardi l'audience pour Europe 1. On vient d'entendre votre rappel des faits, c'était dans la matinale de mardi. Il faut imaginer effectivement qu'à l'époque, cette affaire crée un véritable choc car tout le monde a encore en tête l'affaire du pont de Ligonnès.
Oui, effectivement, entre le 24 rue d'Auteuil à Orvault et le 55 boulevard Schumann à Nantes, la maison des deux Ligonnès, eh bien, il y a moins de 4 kilomètres et 6 ans à peu près séparent les deux histoires. Et c'est la même configuration de départ, autrement dit, une famille complète qui disparaît. Pour la famille d'Orvault, la famille Troidec, donc, les corps vont être retrouvés plus de 2 semaines plus tard dans une ferme à Pont-de-Buis, c'est dans le Finistère. Et puis l'autre différence, c'est que cette fois-ci, eh bien, le mystère est en partie résolu puisqu'on a 2 accusés dans le box des accusés de la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes.
Et on a effectivement Hubert Caouissin, dont l'ADN a été retrouvé justement dans la maison d'Orvault. Et il y a aussi, vous le disiez, autre accusé, donc sa femme, Lydie Troidec, qui est la sœur du père de famille qui était disparu.
Effectivement, elle est poursuivie pour recel de cadavre et modification d'une scène de crime. On va voir au cours des débats si son rôle ne se limite qu'à ça ou si elle a une implication un petit peu plus grande, effectivement.
Vous le disiez, celui vers qui tous les regards sont concentrés, c'est bien sûr Hubert Caouissin, son attitude à l'audience. Déjà, est-ce qu'il assume les faits ?
Il les assume partiellement quand la présidente lui a demandé s'il reconnaissait avoir volontairement donné la mort aux 4 membres de la famille Troidec. Il a répondu non pour la simple et bonne raison qu'Hubert Caouissin ne reconnaît pas la volonté de tuer. Il a effectivement donné la mort, mais pas de manière complètement volontaire, et ses avocats appuient effectivement cet axe de défense, puisque selon eux, Hubert Caouissin n'est pas venu à Orvault dans le but de tuer, mais dans le but de recueillir des informations liées à ce supposé magot d'or.
Ce fameux magot d'or dont on va parler, juste une question, il se comporte comment à l'audience, puisque il prenait des psychotropes et il a décidé d'arrêter justement son traitement juste avant l'audience. Pourquoi d'ailleurs ?
Il s'en est expliqué, lui, parce que ses psychotropes le mettaient dans un état un petit peu amorphe et il voulait avoir, comme il dit, les idées claires pour pouvoir expliquer sa vérité à l'audience. C'est sa version, c'est contre l'avis des psychiatres qu'il a arrêté ses psychotropes qui sont supposés, eh bien justement, enlever, si je puis dire, les effets secondaires du délire paranoïaque dans lequel Hubert Caouissin est plongé. Alors comment il se comporte à l'audience ? Eh bien, à vrai dire, il parle très bien, il a une voix plutôt douce, il raconte effectivement sa vérité, on tombe dans le délire absolu, mais à la rigueur, c'est sa vérité à lui. Et dans sa vérité, eh bien, il est très logique, très linéaire, autrement dit. Eh bien, lui raconte qu'il a voulu aller chercher des informations par rapport à ce magot d'or, qu'il en est absolument et toujours convaincu, 4 ans après les faits, que ce magot existe effectivement.
Au cœur de cette affaire, vous le disiez, il y a cette histoire d'un improbable magot qu'il y a 4 ans avait nourri d'ailleurs de multiples scénarios remontant même à la Seconde Guerre mondiale quand Brest, où ont vécu les Troidec, étaient sous le feu des bombardements. Des scénarios décrits à l'époque par notre ancien correspondant dans l'Ouest, François Coulon.
Juin 1940, 16 200 colis, soit 736 tonnes d'or, sont chargés sur 5 navires le 18 juin. Les blindés allemands sont aux portes de Brest. Dans la précipitation, une caisse d'or de 50 kilos tombe en mer. Alain Boulaire, historien brestois.
Elle est tombée à l'eau, le long du quai, et n'a pas pu être récupérée par des plongeurs de la Marine nationale au lendemain de la guerre. Des gens l'ayant vue tomber à l'eau, il était quand même extrêmement tentant d'aller le chercher à un moment ou à un autre.
Autre hypothèse, dans une ville rasée à 95%, 13%, la découverte de trésors familiaux au milieu des ruines. Gérard Lebrigand, ancien commandant de police.
Quelqu'un qui avait des lingots, des sacs de pièces d'or, des dizaines de kilos. Une maison qui a été bombardée, les gens n'avaient pas eu le temps de prendre leur fortune et en passant dans les décombres, ils ont trouvé des caissettes d'or. Des familles déchirées, ils en venaient aux mains parce que chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, ça revenait sur le tapis.
L'or des Trois Dex, s'il existe, a peut-être pour origine la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont trouvé trace ni d'un trésor, ni de compte en Andorre ou à Monaco.
Alors voilà, on le rappelle, ce papier de François Coulon, c'était il y a 4 ans. Les enquêteurs à l'époque n'avaient rien trouvé. On est bien d'accord, Charles Guyard, 4 ans après, ce magot, c'est un pur fantasme.
C'est effectivement un pur fantasme, tout le monde le dit, sauf une personne dans le box des accusés, Hubert Caouissin, qui est encore toujours très convaincu de l'existence de ce magot.
Et donc vous le disiez à l'audience, Hubert Caouissin, comme vous nous le racontiez, persiste et signe. On écoute un extrait de votre reportage.
10h59, Caouissin prononce le mot magot pour la première fois et déroule son scénario. « J'ai peur qu'on nous envoie un tueur. Qui ?» insiste la présidente. Pascal et Brigitte. « Pourquoi ? S'ils veulent utiliser en France le magot qu'ils ont volé, ils doivent le légaliser. Et comme mon fils est un ayant droit, c'est une cible. » Surréaliste. Prolixe, à la limite de l'exaltation, Hubert Caouissin parle au présent, revit tout. « Je suis ancré dans le passé », soutient-il. C'est un fait, si l'accusé est ancré dans quelque chose, c'est surtout dans sa paranoïa délirante.
Voilà, paranoïa délirante, effectivement, avec l'idée que la famille Troadec en voulait à son fils et éventuellement voulait le déshériter ou en tout cas le spolier de sa part d'éventuel héritage sur un magot qui n'a donc, on l'a bien compris, jamais existé. Ce sera très important la semaine prochaine puisqu'à la barre, il y aura les experts psychiatres qui viendront décrire cette personnalité si singulière et qui a abouti à ce drame de Hubert Caouissin. Merci beaucoup Charles Guyard.
Merci Fabienne.
Le Tour de France vient de partir de Brest, on en parlait dans le journal de la mi-journée. On va retrouver dans un instant ceux qui vont vous faire vivre sur l'antenne les moments forts de la Grande Boucle pendant 3 semaines.
Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Ça y est, le Tour de France est donc parti de Brest il y a un peu plus d'une heure et on va retrouver ceux qui vont vous faire vivre cette Grande Boucle pendant 3 semaines sur l'antenne d'Europe 1, Marguerite Lefebvre et Axel May. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Même équipe que l'an passé avec Marguerite pour suivre, je crois, principalement l'étape sur la moto.
Oui, un petit peu comme l'an dernier, ça va être le gros de mes journées, passer plusieurs heures sur la moto qui est pilotée par notre technicien Christophe Giustiniani. On va aller au départ des étapes dès le matin et puis s'élancer avec les coureurs un petit peu avant eux en général et puis passer 4, 5, 6 heures, ça dépend, sur la moto pour faire vivre sur Europe 1 toutes ces étapes. Il y aura des points toutes les heures l'après-midi.
Et sans masque cette année ?
Alors si, je pense que sur la moto, on aura encore le masque puisque les règles sanitaires dans cette bulle du Tour de France sont quand même très très strictes.
Bon, et on va en parler. Et vous, Axel, votre rôle dans cette team ?
Moi, je suis avec l'autre technicien, Julien Or, qui est à l'arrivée. Et puis, on commente l'arrivée. On fait des points à chaque heure. Et puis, on aura aussi, dans un dernier temps, vers la fin du Tour de France, des émissions à alimenter.
Alors, la bonne nouvelle, quand même, Marguerite et Axel, c'est que ça y est, le public est de retour. Ça tombe bien, parce qu'en plus, en Bretagne, on est sur une terre de cyclisme.
Ah oui, et vous la connaissez bien cette Bretagne, c'est vrai que l'an dernier on avait vécu un tour qui était quand même très particulier avec un départ à huis clos de Nice, et bien cette année on sent l'effervescence là depuis quelques jours en Bretagne, le public est autorisé à revenir, alors pas n'importe comment, il y a des conditions évidemment, et notamment pendant les 4 premiers jours en Bretagne, il y a des conditions très strictes avec pour les spectateurs au départ et à l'arrivée un pass sanitaire obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prouver que vous avez été soit vacciné, soit que vous avez été testé négatif. Donc ce sont les conditions, mais ça ne démobilise pas les Bretons qui sont au rendez-vous. La Bretagne, évidemment, une grande terre de vélo.
Et il faut savoir, Fabienne, vous savez, le jeudi, il y a la présentation des équipes. Et là, il y avait une vraie ferveur jeudi soir à Brest. Et on a vu les coureurs bretons être particulièrement applaudis par le public. Et ils sont plusieurs, hein, je peux vous citer, je vous en cite un seul, mais il y a Warren Barguil, ancien champion de France, qui habite sur le parcours d'ailleurs. Le tour va passer vraiment devant chez lui. Donc forcément, quand vous êtes breton et que le tour passe à côté de chez vous, ça met du baume au cœur et ça vous donne un grand sourire.
Oui, c'est fou. C'est les routes que j'emprunte. J'emprunte tous les jours parce que je vais déposer mon fils chez la nounou qui habite de l'autre côté du pont. Et puis je reviens le chercher le soir et aussi pour l'entraînement, je passe dessus. Donc c'est juste fou de se dire que la plus grande course au monde va passer juste à côté de chez moi. En plus, en Bretagne, il y a vraiment une culture du vélo. Il y a des mordus qui me suivent depuis que je suis cadet, quand j'ai commencé le vélo à aujourd'hui. Donc c'est une belle histoire.
Et puis on va rappeler hein, effectivement Ino, Petit Breton, Robic, Louison Bobet. On espère qu'un jour il y aura encore un Breton en tête du palmarès de ce Tour de France. Alors le public, il sera là. Est-ce que pour les coureurs et pour vous, les journalistes, ça va être plus simple de travailler que l'an dernier ?
Alors pas vraiment. Hein. On le disait tout à l'heure, il y a encore les masques qui sont obligatoires. Et il y a aussi les fameuses bulles sanitaires qu'on a découvertes l'an dernier et qui seront encore en vigueur cette année. Les coureurs, eux, n'auront le droit de voir personne en dehors de cette bulle, donc ils verront leur staff et puis quelques membres de l'organisation, mais ils pourront pas voir leur famille, ils pourront pas sortir de l'hôtel, donc pour eux ce sera très strict. Et puis nous, bah, on aura du coup pas accès non plus beaucoup à ces coureurs. C'est très organisé, là on les a vus ces derniers jours en visioconférence, et le matin de chaque étape et à la fin de chaque étape, c'est très organisé avec des perches pour se tenir vraiment à distance, avec les masques. Donc le travail finalement pour nous, ce sera à peu près le même qu'au mois de septembre, le Tour 2020.
Côté sportif, allez, on va terminer avec ça, quelle attraction entre guillemets on doit avoir cette année pour animer ce tour?
Côté français, tout le monde espère qu'il y aura un maillot jaune rapidement avec Julien Alaphilippe, puisque les deux premières étapes lui correspondent. Mais ensuite, pour le podium final, c'est pas sans doute avec un français que ça va jouer.
Non, c'est ce que me disait Bernard Hinault effectivement il y a quelques minutes. Ouais.
C'est plutôt un Slovène ou pourquoi pas un Gallois comme Geraint Thomas. Mais parmi les événements, les attractions, il y a le retour de Chris Froome, quadruple le vainqueur du Tour. Il y a eu un accident il y a 2 ans alors qu'il préparait le Tour. Là, il revient dans un rôle de capitaine de route, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour gagner le Tour, il est là pour gagner aider son équipe, qui est l'équipe Israel Academy Cycling. Et puis y a un nom que les supporters, les fans de vélo connaissent bien, Marguerite.
Oui, il s'appelle Mathieu Van Der Poel. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais si vous êtes un peu fan de vélo, eh ben vous savez que c'est le petit-fils d'un certain Raymond Poulidor.
Ah.
Poupou. Alors Mathieu Van Der Poel, il porte pas le même nom de famille. Il court pas pour la France d'ailleurs, mais pour les Pays-Bas, puisque son père est hollandais. Il n'est pas français, Mathieu Van Der Poel, mais il a tout le soutien du public. Écoutez-le.
C'est quelque chose que j'ai déjà vécu quand j'ai fait les autres courses en France. Et ça, c'est, je pense, vraiment la popularité que mon papy il avait. C'est pour ça qu'on me voit un peu comme un Français, je pense, quand je cours ici. Et, c'est joli à voir et je pense que j'espère qu'il va y avoir tant de spectateurs sur les bords de la route parce que ça nous a manqué quand même les semaines et les mois derniers.
Voilà, eux aussi ils les attendent, hein. Eux aussi ils sont contents, les coureurs, de retrouver le public, hein. Et vous aussi, merci à tous les deux et puis bon tour et au plaisir de vous entendre donc très régulièrement sur l'antenne pendant ces 3 semaines. Merci à vous.
Merci Fabienne.
Merci Fabienne.
Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoile.
Et je vous emmène maintenant dans le Perche à la découverte d'un chef étoilé qui a décidé de faire de la gastronomie durable. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Fabienne.
Toujours un plaisir de vous recevoir dans Tout Terrain, reporter à Europe 1, on peut le dire, Fingal, je vous laisse le choix des mots.
Je prends.
En tout cas, c'est vous qui suivez à la rédaction toute l'actualité du secteur de la restauration et bien sûr de ce qu'on retrouve dans l'assiette des chefs. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire gastronomie durable? Parce que moi, j'ai dans la tête développement durable. Alors, gastronomie durable, ça veut dire que ça dépasse ce qu'on trouve justement dans l'assiette?
C'est ça, c'est l'idée. C'est, on va dire, le développement durable de la cuisine. Pour résumer, on peut dire que c'est une espèce de philosophie de cuisine plus éco-responsable, qui valorise le terroir, les produits les plus locaux possibles. Et puis, les gens qui produisent les produits qu'on va retrouver dans l'assiette, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs sont mis en avant. C'est la cuisine, mais avec un petit truc en plus.
Et donc, vous êtes allé à la rencontre d'un chef agriculteur.
Voilà, il s'appelle Guillaume Foucault. Il est étoilé depuis quelques années au Guide Michelin. Il a un restaurant à Vendôme, le Pertica. Alors, il réfute cette appellation de cuisinier agriculteur, mais moi, je pense qu'on peut en parler comme ça.
Pourquoi il réfute, d'ailleurs?
Parce qu'il se considère uniquement comme un cuisinier, mais à côté, il a acheté des terres, il produit des fruits, des légumes. Et puis surtout, c'est ce dont on va parler dans le reportage, il m'a raconté le projet de sa vie. Faire renaître d'une certaine façon une race ancienne, locale, de vaches.
Eh bien justement, on va vous suivre avec lui dans sa campagne percheronne.
Dans un pré, à l'ombre d'un arbre fruitier, une petite vache à la robe marron clair, la plus grande fierté du chef Guillaume Foucault.
Alors cette vache, en fait, qui habitait nos territoires, a disparu dans une époque où il y a eu un schéma de sélection qui avait en fait des intérêts qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui, en fait.
La productivité plus que la qualité, un non-sens pour cet amoureux du perche qui s'est fixé une mission, sauver celle que l'on appelait il y a quelques décennies la percheronne.
Je pense que c'est intéressant de pouvoir se dire que notre gastronomie, elle a été ce qu'elle est, certes par rapport au talent des chefs, mais aussi, et on l'oublie peut-être souvent, par la diversité, la grande diversité des terroirs que l'on peut avoir en France et de ses richesses.
Pour faire renaître la race, le chef a mis la main sur de vieilles cartes postales et archives qui décrivent la percheronne. Il a sélectionné les bovins les plus proches physiquement, les a fait s'accoupler tout en les nourrissant avec des pommes et des poires de variété locale. À chaque nouvelle génération de vaches, le code génétique se rapproche un peu plus de celui de la race éteinte. Une démarche aujourd'hui récompensée par la nouvelle étoile verte du guide Michelin, explique son patron Gwendal Poulenec.
Ça peut aller de la valorisation de leur territoire, de leurs producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs. Et c'est aussi une occasion de remettre en avant ces découvertes ou ces redécouvertes d'un patrimoine agricole.
En plus de cette distinction, c'est désormais un label que vise le chef Guillaume Foucault, une AOP, voire même une reconnaissance officielle de race, la vitrine d'un terroir qui pourrait même doper le tourisme, comme la célèbre vache de l'Aubrac.
Ah voilà, la célèbre vache de l'Aubrac, parce qu'effectivement, je le disais en écoutant votre reportage, quand on pense à vache percheronne, on pense à percheron plutôt cheval de trait, hein, effectivement. Vous dites que on connaît tous la vache de l'Aubrac et que c'est vrai que ce chef veut se baser sur ce modèle. C'est quoi ? L'idée, c'est de décliner une région sur plusieurs produits, en fait.
Ouais, exactement. En fait, c'est ce qui s'est passé dans l'Aubrac. C'était plutôt il y a une cinquantaine d'années, dans les années 60. Des agriculteurs un petit peu avant-gardistes quand même pour l'époque décident de miser sur le terroir, en fait, de sortir de ces, en l'occurrence on parle des vaches standardisées qui sont presque façonnées pour être des vaches à viande ou alors des vaches à lait. Là, il s'agit de miser sur le terroir pour retrouver finalement de la qualité plus que de la quantité. Ça a été long dans l'Aubrac, ça va être le cas aussi dans le Perche. Il s'agit d'un travail d'une vingtaine d'années quand même pour essayer via des croisements, en fait, retrouver les vaches qui ressemblent le plus aux vaches d'origine. Chaque génération, elles vont se rapprocher de ces anciennes vaches. Et donc, c'est un travail sur le très long terme pour retrouver une vache qui a une personnalité, finalement, à la fois physique et puis aussi dans le goût. Et ça finit effectivement par payer et par créer une espèce de rayonnement sur le territoire. Ça a été le cas dans l'Aubrac. Christian Bonal, que j'ai eu au téléphone, est éleveur de vaches Aubrac. Il est aussi l'ancien président d'une association qui fait la promotion de l'animal. Écoutez.
On a la notion des grands espaces, d'une viande de qualité, on a la notion d'un paysage préservé. C'est tout ça qui est véhiculé par la vache Aubrac. Le touriste qui passe, c'est incontournable, il voit des vaches et il voit du paysage qui est entretenu par ces vaches-là. Et ensuite, le tourisme aujourd'hui, c'est basé sur cette histoire d'image naturelle, d'image de paysage préservé. Et tout revient un peu à la vache, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ne servent pas de la race Aubrac. On a des gîtes qui se sont développés aussi un peu à cause de cette notoriété de la race et du territoire et de ce qu'on y fait dessus, quoi.
Voilà, on comprend bien que c'est tout un écosystème qui s'organise autour de ce qui est un peu une marque aussi quand même.
Complètement, une vitrine.
Une vitrine. Alors c'est une initiative parmi d'autres, Pierre, en faveur de cette gastronomie durable. Tous les chefs semblent s'y mettre aujourd'hui.
Oui, il y a eu un vrai virage, à peu près il y a une dizaine d'années environ. Ce qui compte le plus finalement aujourd'hui, c'est le local, en tout cas le plus possible. Je vais vous faire un peu une caricature, mais en fait, aujourd'hui, les chefs, ils prennent un compas, ils font un rayon de 100 km autour du restaurant et ils vont voir tous les producteurs qui sont autour pour essayer de mettre en avant leurs produits. Alors, c'est pas aussi simple que ça, on peut aller chercher un peu plus loin parfois, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, je suis dans cette région, j'ai un terroir, je le mets en avant, je le sublime dans l'assiette. Finalement, il y a 40 ans, la cuisine, c'était mettre dans l'assiette les produits les plus prestigieux, le homard breton, la truffe du Périgord, le caviar qu'on allait chercher à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, le vrai trésor dans les restaurants gastronomiques, ça va être le légume oublié, bio, qui vient du jardin ou de la ferme juste à côté. Et le chef Guillaume Foucault, par exemple, il vient de lancer, en plus de cette histoire et cette renaissance de vaches, il vient de lancer une production de thé local, du Perche. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on le sait peu, mais finalement, 99,9% du thé qu'on boit en France, il vient d'Asie. Mmh. Et donc là, c'est pareil, il relance un thé complètement local. Finalement, la démarche, elle va au-delà même de la cuisine, il y a toutes ces initiatives, mais c'est encore plus loin, c'est ce que je vous disais, c'est une philosophie. Écoutez par exemple Thibaut Spivak, il est chef du restaurant Anona à Paris, et pour le coup, il n'y a pas un terroir qui est forcément très riche en Ile-de-France, et pourtant, on peut dire que c'est un chef éco-responsable.
Ça va être trier les biodéchets, ça va être construire des établissements avec des matériaux français, hein. On n'a pas besoin d'aller chercher du bois à l'autre bout du monde pour faire un bar, ça va aussi être faire du 100% maison. Ici, on fait tout, soit dans la cuisine, même au bar, hein. On fait notre propre pain, on fait nos sirops, on fait nos propres liqueurs. L'idée, c'est vraiment d'économiser au maximum les camions de transport qui peuvent se déplacer vers un restaurant.
On entend derrière vous que ça crépite, vous êtes en cuisine. C'est quoi la volaille que vous êtes en train de cuisiner? Elle vient d'où?
Du Gâtinais, on est dans le sud de l'Essonne.
Alors d'ailleurs, le Michelin ne s'y est pas trompé puisqu'il récompense depuis 2 ans ce type d'initiative avec une étoile verte. Ça peut faire un côté marketing, mais c'est vrai que les chefs, ça correspond aussi à ce qu'ils ont envie de mettre en avant.
Oui, complètement. Il y a une partie, on ne va pas se mentir, d'affichage qui est un petit peu assumée, mais en même temps, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire, ce qu'on raconte, ça fait 10 ans que les chefs ont pris ce virage. Le Michelin le récompense aujourd'hui, mais en fait, si vous voulez, dans l'esprit du Michelin, l'idée, ce n'est pas de pérenniser sur le très long terme l'étoile verte comme les 3 étoiles qu'on connaît. Et finalement, moi j'ai une discussion avec les gens du Michelin, ils me disent l'étoile verte, l'objectif c'est pas d'en donner pendant des années, c'est que les chefs finalement ça devienne naturel en fait, que le côté éco-responsable
qu'on
soit
fasse
associé
de l'étoile verte sans avoir besoin effectivement
exactement,
de l'afficher.
Exactement, sans avoir besoin de l'afficher, que ça devienne tout simplement naturel. Et finalement, l'idée c'est de dire que la gastronomie de demain, ça doit être une gastronomie responsable, qui ne fait pas venir du Canada ou d'Asie des produits pour avoir un petit côté exotique, quoi.
Voilà, merci beaucoup Pierre Herbulot.
Merci à vous.
Et on vous retrouve avec plaisir évidemment dans le 18-20.
Avec ce soir une recette donc dans ma chronique Dans l'ombre des grands chefs, une recette de salade d'encornet avec le chef Giuliano Sperandio du Taïwan à Paris.
Eh bien voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre.
Merci.
Europe 1.
À suivre, l'exposition exceptionnelle consacrée à Simone Veil à l'Hôtel de Paris 4 ans après sa mort.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
4 ans que Simone Veil nous a quittés. Une grande exposition dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris avec des documents exceptionnels présentés parfois pour la première fois au public raconte la vie de celle qui est devenue une véritable icône.
C'est la première femme dans bien des endroits. Première femme, une des rares femmes à inspecter les prisons, première femme au Conseil supérieur de la magistrature, première femme ministre, première femme au Parlement européen. Donc très souvent, il n'y a que Simone Veil, en fait, parmi les réunions. Et donc ça veut dire qu'il a fallu un courage, une autorité, une force intérieure particulière pour imposer son genre à un monde d'hommes.
Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
On vient d'entendre Olivier Rosenberg, professeur à Sciences Po, qui est l'un de ceux à qui on doit cette exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, où le public est d'ailleurs accueilli par ces mots de Jean d'Ormesson lors de l'entrée de Simone Veil à l'Académie française. « Nous vous aimons, madame, comme l'immense majorité des Français ». Une exposition, vous me l'avez dit, qui ne laisse pas indemne.
Ah non, franchement, on sort bouleversé de ce parcours, parcours d'une vie au destin hors norme. Et bien évidemment, c'est la Simone Veil intime que l'on découvre d'abord avec des photos de famille. Hein, c'est son album de famille qui est déroulé sous nos yeux.
Et que ses fils, d'ailleurs, ont ouvert justement au public.
Hein. Tout à fait. Donc, photos de son enfance. Il y a même un film avec sa sœur, toutes deux rescapées des camps. Simone et Denise se remémorent leur enfance à Nice.
La plage de Nice de Galais. On avait souvent les mêmes robes.
Oh oui, c'était un cauchemar pour moi. Sur les jours de maman, mon emplacement préféré.
La Simone. J'ai pas la même. Une boude.
Oui, probablement parce que c'était Jean qui était sur les jours de maman et pas moi.
L'îlot, elle est belle.
Voilà, c'est un extrait de ce film réalisé il y a plus de 20 ans par David Teboul.
Voilà, et là, on entend cette enfance heureuse que traduisent les photos qu'on voit d'ailleurs dans cette exposition, comme me l'expliquait il y a quelques semaines justement Olivier Rosenberg. Une enfance heureuse, presque banale, qui tout d'un coup va basculer dans l'horreur.
Et oui, jusqu'à l'arrestation de Simone Veil en 1941.
On a fait un agrandissement d'une fiche de police. Donc l'épisode est assez connu, hein. Simone Veil en 1941 s'est fait arrêter alors qu'elle chante l'International, ce qui est assez drôle vu son position politique future sur le balcon de la Ciotat, mais elle chante ça parmi d'autres chants. Il y a cette fiche de police qui est remarquable non seulement par la belle photo de Simone adolescente de 13 ans, mais également par la mention d'israélite sur cette fiche de police qui montre bien le caractère intrinsèquement raciste de l'administration française de l'époque.
Voilà, on va suivre comme ça le film de sa vie, un parcours chronologique. On écoute Olivier Rosenberg.
Donc on commence par l'enfance, puis la traque à Nice pendant la guerre. Évidemment la déportation avec une pièce plus, l'atmosphère plus recueillie. Et ensuite, on a tenu à dépasser le personnage intime pour mettre en avant la femme publique, la femme qui, dans le cadre de sa carrière professionnelle, avait mené à bien différents dossiers, différentes actions. Simone Veil, c'était une femme qui aimait faire des choses. Donc on voulait que l'exposition en témoigne, avec une pièce sur ses 20 années comme magistrate, avec une pièce bien sûr de ministre, bien sûr de députée européenne, et puis une pièce un peu spéciale, un espace un peu spécial sur la mémoire de la Shoah, sur comment est-ce qu'elle est revenue sur cet épisode ô combien difficile de sa vie jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, parce que Simone Veil, et c'est ce que dit toujours Olivier Rosenberg, ne voulait pas oublier, et elle en parlait justement, et vous parlez de cette photo saisissante justement dans l'exposition.
Oui, vraiment une photo bouleversante. Simone Veil assiste à la cérémonie des 30 ans de la libération d'Auschwitz et on est vraiment frappé par la tristesse infinie de son regard qui est vraiment perdu.
Elle représente le gouvernement, elle est ministre à l'époque, c'est pourquoi elle est devant les autres hommes, c'est la seule femme devant les hommes, et elle est seule, elle est perdue, et on peut penser que dans ces moments difficiles, elle repensait non seulement aux 6 millions de juifs, mais plus concrètement assassinés, mais plus concrètement à sa mère, à son père, à son frère.
Donc c'est une exposition aussi qui est notable parce qu'elle fait découvrir d'autres facettes de Simone Veil. Il y a bien sûr le rappel de son engagement au moment du combat pour l'IVG. Et puis il y a aussi un engagement moins connu, celui en faveur des prisonniers.
Oui, complètement. C'est un engagement, moi, que j'ai découvert en voyant l'exposition.
Simone Veil a été vraiment militante de la cause de la dignité des prisonniers. Très très tôt, c'est-à-dire à la fin des années 1950. Elle a acquis une notoriété sur cette question-là à l'époque. C'est celle qui vraiment se bat, non pas contre la prison, elle reste une conservatrice qu'on connaît, mais pour la dignité des prisonniers, quel qu'ait été leur acte. L'exemple de ça, c'est 1959, elle se rend en Algérie pour inspecter, à la demande du garde des Sceaux, les prisons françaises en Algérie, et elle sauve des gens. Elle sauve des gens qui sont maltraités, qui ne sont pas soignés, qui sont menacés de torture ou d'exécution sommaire, en les faisant rapatrier. C'est une action ô combien courageuse dans le contexte de l'époque, discrète et humaniste au sens profond du terme. Principalement des prisonniers du FLN, une dame qui avait posé une bombe, donc des terroristes, hein, dont elle veut s'assurer qu'ils soient traités dignement dans des prisons françaises.
Effectivement, c'est un engagement qu'elle aura toute sa vie, effectivement, oui, de lutter pour cette dignité dans les prisons, puisque quand elle était magistrate, oui, elle était au sein de l'administration pénitentiaire, effectivement, un parcours un peu moins connu.
Absolument, moi, que j'ai découvert, je dois le dire sincèrement.
Merci beaucoup, Diane Chenouda, pour cette plongée au cœur de cette exposition exceptionnelle. Vous restez avec moi, puisque dans un instant, on va parler d'une autre exposition qui se tient en ce moment à Paris, à la Maison Victor Hugo, Place des Vosges, avec
une autre
facette
aussi
de Victor Hugo qu'on connaît peu, Victor Hugo, le dessinateur.
Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Et donc toujours avec moi en studio, Diane Chenouda. Et on le disait pour terminer, on va partir à la découverte d'un talent moins connu de Victor Hugo. On connaît en effet l'écrivain, le poète, l'homme politique, mais on connaît moins le dessinateur. Et c'est justement à la Maison Victor Hugo à Paris que l'on peut découvrir ses dessins, Place des Vosges, la maison où vivait l'écrivain, même si, Diane, vous m'avez dit qu'il n'y avait que quelques dessins dans les pièces de l'appartement.
Oui, quelques dessins glissés ici et là dans l'appartement de Victor Hugo, hein, qui a été entièrement restauré et que j'invite tout le monde à visiter. On rentre vraiment, évidemment, dans son intimité, avec comme point d'orgue la chambre où il s'est éteint. C'est très émouvant, forcément. Sinon, l'essentiel des dessins qui sont là exposés, 120 en tout, sont surtout visibles au premier étage de la maison Victor Hugo, juste en dessous de l'appartement.
Et il faut en profiter parce que vous me l'avez dit, c'est très rare qu'on puisse les voir car ce sont des pièces très fragiles.
Ah oui, complètement, c'est vraiment très très fragile. Comme tous les dessins, hein, ce sont là des encres, de l'encre brune sur papier. Et oui, ils vont rester accrochés 5 mois, ces dessins, ce qui est déjà vraiment beaucoup, avant de repartir en effet dans le noir, rester à l'abri des regards pendant 5 ans.
Alors je le disais, talent moins connu, quand est-ce qu'Hugo commence à dessiner? Et au début, c'est pour dessiner comment et quoi?
Oui, alors, il commence en effet à dessiner pour lui, au départ, hein, vers 1830. C'est vraiment un autodidacte, hein, Victor Hugo. Écoutez, Gérard Houdinet, c'est le directeur de la maison Victor Hugo, et c'est un passionné, évidemment, passionné par le génie d'Hugo.
Alors, quand il commence à se prendre au jeu de deux manières. D'abord, pendant les années romantiques, début des années 1830, tout le monde fait de la caricature. Donc Victor Hugo fait des petites caricatures, c'est vraiment un art de salon intime entre copains, quoi. On se moque des classiques, donc on se fait un petit croquis. Et lui, en plus, il en fait pour ses enfants. Voilà, il fait des dessins drôles avec des petits personnages et il met ça sur le lit de ses enfants qui les trouvent au réveil. C'est tout à fait charmant. Et puis, deuxième chose très importante, c'est que 1833, il rencontre Juliette Drouet. Donc ça va être une grande passion qui va durer jusqu'à la mort de Juliette Drouet pendant 50 ans. Et pour qu'ils soient un petit peu ensemble, ils prennent l'habitude de voyager l'été. Et du coup, Victor Hugo justifie face à sa femme et à sa famille ses voyages, disant qu'il fait de la documentation pour son travail. Donc il revient avec des carnets de voyage remplis de notes sur les monuments et puis de petits dessins, de petits croquis qu'il a fait pendant ses voyages.
Bon, on n'est pas sûr que la famille était aussi dupe que ça, hein, de l'existence de Juliette Drouet. Ça va durer, cette passion dessin, tout au long de sa vie, je crois. Thèmes vont évoluer, le style aussi.
Oui, absolument. Victor Hugo donc ramène ses croquis de ses voyages. Mais en effet, son dessin va se développer. Il va réaliser des encres vraiment magnifiques, d'une profondeur et d'une intensité incroyable. Alors, des paysages, parfois de la taille d'un timbre-poste.
Ah oui.
Ouais, c'est impressionnant dans l'expo. Un peu, vous savez, comme le bonsaï japonais qui est tout petit mais qui contient le monde entier. Et là, c'est pareil avec Hugo. Il va dessiner un parc à abandonner. Vous voyez, c'est très romantique comme thème, des paysages d'arbres ou de lacs au crépuscule dans ce tout petit format. Mais bien sûr, il va aussi réaliser des encres immenses, souvent des châteaux fantomatiques au bord du Rhin en Allemagne, ou alors un château en Espagne, ou alors un paysage de montagne noyé dans la brume en Suisse.
Le thème principal, c'est la nature. Alors, et pas la nature toute seule, il y a généralement un monument. Alors, le grand thème de Victor Hugo sont les châteaux qu'on appelle les bourgs, du nom allemand, parce qu'il a commencé à les dessiner pendant ses voyages sur le Rhin. Donc, les châteaux médiévaux, des villes médiévales, comme ça, c'est vraiment le thème qui le fait rêver, qui le passionne.
Et là, franchement, là, tous ses dessins sont de purs chefs-d'œuvre. Il va inventer une technique très particulière.
Ça va devenir des espèces d'images de rêve. Ça a complètement dépassé le dessin souvenir, comme on parlerait de photos souvenirs qu'il faisait pendant ses voyages. Et là, on rentre dans le grand Victor Hugo qui acquiert une technique très sophistiquée malgré l'apparence, parce que c'est pas un peintre, c'est vraiment un dessinateur. Et il dessine essentiellement avec son outil de travail d'écrivain, c'est-à-dire sa plume et son encre. En rajoutant du crayon, du fusain, ce qu'on appelle du crayon lithographique, aussi quelque chose de très grave, sans doute de la suie. Alors, dans la légende, on a même parlé du café, mais là, on n'est vraiment pas sûr qu'on en ait trouvé. Mais en tout cas, il fait ce que lui-même appelle des mixtures bizarres, ce qui donne à ses dessins une densité qui n'appartient qu'à lui. Et puis vraiment, ça, c'est une matière du dessin qui est très, très importante, parce que du coup, on sent que ça vibre, on sent qu'il se passe quelque chose. Donc, quand on est devant un dessin de Victor Hugo, on ne reste pas indifférent, parce que ça, on tombe dedans, littéralement, parce que ça vous absorbe. C'est complètement fascinant, puis ça vous fait rêver. Et ça, on en a bien besoin.
Et puis il y a aussi les caricatures, parce qu'il va y revenir à la fin de sa vie.
Absolument, il a commencé par les caricatures et il y revient. Ces caricatures qui, elles, nous font réfléchir, si ces paysages nous font rêver. Évidemment, les caricatures nous font réfléchir, ces caricatures du Victor Hugo inlassable militant contre la peine de mort.
C'est le caricaturiste qui renaît, mais qui va renaître alors de façon différente, de même que les dessins documentaires de voyage deviennent des œuvres complètement oniriques et visionnaires. La caricature va devenir des trognes, une espèce de figure bizarre. Et là, d'ailleurs, autour de nous, on en a un exemple avec un des grands cycles de Victor Hugo à la fin de sa vie, qu'on appelle le poème de la sorcière, qui raconte un procès en sorcellerie. C'est une sorte de bande dessinée, mais qui racontait uniquement avec des visages. qui nous fait toute une scène, depuis les juges, la sorcière qu'on torture, et après les gens de la foule qui assistent au supplice de la sorcière qu'on brûle sur le bûcher. Voilà, donc c'est vraiment des facettes extrêmement diverses. Pour nous, voilà, c'est des choses qui sont quand même rarement montrées. Et surtout le poème de la sorcière, je crois que ça fait la deuxième fois qu'on le montre dans son intégralité.
Je peux vous dire que c'est très fort, hein, ces trognes, comme il dit, valent vraiment le détour, hein, évidemment très expressif. Des chefs-d'œuvre à découvrir absolument, qu'on ne reverra pas de sitôt, en effet, à cause de leur fragilité, on l'a dit. Profitez vraiment des 5 mois d'exposition. Hugo, décidément, avait tous les talents.
Oui, puis je sais que c'est une grande émotion pour vous, effectivement, ces dessins de Victor Hugo vous partagez avec le directeur de la maison de Victor Hugo qu'on vient d'entendre en fil rouge. Victor Hugo, dessin dans l'intimité du génie, c'est donc le nom de cette exposition à voir à Paris jusqu'au 21 novembre et c'est un événement européen.
Oui, et alors justement, on parlait de Gérard Houdinet, hein, celui qu'on vient d'entendre, et bien il a aussi sorti un très beau livre, hein, il faut le dire, que je vous recommande, qui s'appelle tout simplement Victor Hugo, dessin aux éditions Paris Musée.
Merci beaucoup Diane Chenouda pour cette plongée dans l'univers plus méconnu de Victor Hugo. Merci à vous.
Ouais, c'était un grand plaisir, merci.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission et qui chaque semaine vous racontent avec conviction et enthousiasme l'actualité de la semaine. Lionel Gougelot, Charles Guyard, Pierre Herbulot, Diane Chenouda, Axel May et Marguerite Lefebvre. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Cyril Pascal pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr.